Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
Salut tout le monde. Bon jeudi, jeudi le 9 pour cette édition de Ça vaut le détour. Et tout ça, ben, c'est valide jusqu'au mercredi 15. Tout de suite, tiens. Avant de vous parler de ce qui s'en vient aujourd'hui, j'ai envie de vous lancer une invitation. Pour ceux qui nous écoutent en direct, ça se passe demain. Et également, ben, une chose à la fois, tiens. Demain, projection du court-métrage « Prends-moi ». C'est à 17h. C'est un court-métrage sur l'assistance sexuelle. Deux personnes qui ont utilisé la chambre d'intimité au C3S... Jeanne Mance. La chambre existe pour vrai. Alexandre est un résident pour vrai, jeune vingtaine. Maxime Despomerleau, elle, a joué la comédienne. Et on regarde un peu l'intimité et peut-être la malaisance entourant le besoin d'être assisté par une tierce personne pour que l'amour puisse, disons, être rejoint physiquement l'un à l'autre. Et il y aura discussion ensuite, table ronde, avec les membres de l'équipe et une travailleuse du sexe. Ça se passe au cinéma Judith Jasmin. Ça, c'est l'ancienne ONF, là, au 1564 rue Saint-Denis. Entrée gratuite. Donc, le court-métrage d'une dizaine de minutes à 17h, vendredi 10 octobre, et ensuite, table ronde, qui sera animée par notre Marianne. Et d'ailleurs, en préambule à cette occasion, aujourd'hui, C'est bon pour la santé, va traiter du même sujet avec sensiblement les mêmes personnes. Ce qui fait que pour les gens en région qui pourront peut-être pas se déplacer vendredi, ou encore, si vous avez manqué parce que vous nous écoutez en différé, ben vous pourrez quand même profiter de cette émission-là. C'est bon pour la santé, aller dans le jeudi 9 octobre, puisque ben, elle est déjà passée pour vous, alors que pour nous, c'est à venir. Et sinon, ben, il y a quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans nos bonnes adresses au bois, hein, avec un petit détour dans la Haute-Mauricie. Il y a Nadine Prévost, qui elle, est directrice des services et de l'action sociale pour la Société de sclérose en plaques. Il sera question de certaines activités pour les jeunes. Je reviens sur le choix qu'a exercé Pierre Mayence de cesser de vivre en se faisant mourir de faim, hein, 61 jours sans manger. Ça fait la manchette à plus d'une reprise cette semaine. Et on va terminer avec un nouveau service offert aux personnes avec des limitations fonctionnelles du côté de BANQ. Kamal Salifou est avec moi, lui qui s'occupe de la régie aujourd'hui. Kamal, j'ai pas compris tout à fait ce que vous m'avez dit. Nicolas est là, bon, chouette. Puis, gênez-vous pas, Kamal, pour hausser le volume de votre microphone, comme ça, on va mieux s'entendre. Monsieur Bernard, bonjour.
Oui, bonjour, M. Fortin, ça va bien?
Ça va très, très bien, Nicolas. Appelez-moi Luc, il n'y a pas de problème. Vous êtes donc, je le disais, dans la Haute-Mauricie. C'est quoi? C'est Lac-Édouard, à peu près?
Oui, on est situé en Haute-Mauricie, au nord-est de La Tuque, environ 45 minutes au nord-est de La Tuque, en pleine forêt haute-mauricienne, donc la Seigneurie Triton, qui est accessible uniquement par bateau pour le dernier petit bout de chemin.
Oui, par bateau, bien qu'on puisse y aller en voiture et en train également. Le train passe encore là.
Tout à fait. Alors, okay. Le train à partir de Montréal ou encore de Rivière-à-Pierre, proche de Québec. Le train, la ligne de... Ben, le Triton a été créé grâce à la ligne de chemin de fer en 1893. Et encore aujourd'hui, donc, le train de Montréal, Gare centrale ou Rivière-à-Pierre, on peut se rendre directement jusqu'au Triton. Et on vient vous chercher en bateau sur le bord du chemin.
Et c'est vraiment intéressant parce que, bon, moi, pour y être allé deux fois il y a longtemps, bon, évidemment, ceux qui me connaissaient savaient que je suis aveugle, ce qui fait que pas de voiture. Et là, mais en train, vraiment, on peut se rendre. Ensuite, on nous ramasse là où le train nous fait descendre et, en fait, ben, on nous ramène puis on retourne à la maison. Donc, vraiment, c'est une vacance presque clé en main. Et c'est pourquoi, dans nos bonnes adresses, on avait envie de parler à Nicolas pour voir ce que la Seigneurie du Triton avait à offrir aux gens vivant avec une limitation fonctionnelle. Il y a de belles activités et comme il faut réserver d'avance, bon, vous achevez votre saison, mais ça commence en avril déjà, Nicolas?
Tout à fait. Là, on est en pleine fermeture, en fait, en ce moment. Donc, si vous entendez quelques bruits de bedding ou bedding tout le tour, c'est tout à fait normal. Mm-hmm. Mais on ouvre à partir du début mai, en fait, entre les glaces, début mai jusqu'à la mi-octobre.
Ouais. Parlez-moi donc de ce qu'on peut vivre en allant faire un séjour chez vous, et particulièrement si on a une limitation, ce qui est accessible pour nous.
Ben, je pense qu'avec limitation ou sans limitation, on peut venir faire de la pêche au triton. C'est de la truite mouchetée exclusivement sur l'ensemble du territoire. On a 12 lacs et une rivière. On a un territoire pour la randonnée d'environ 30 km de sentier en forêt. Et il y a également un village inuit reconstitué, donc avec de l'hébergement en tipi, un complexe hôtelier avec service de restauration et tout ce qu'il y a sur place. Donc, pour les gens qui ne sont pas limités, tout ça est accessible partout. Par mm-hmm. contre, pour les personnes qui peuvent avoir des limites aux mobilité réduite ou autre, à ce moment-là, effectivement, tous les lacs ne sont pas accessibles, mais on a quand même une bonne diversité de lacs qui sont accessibles. Et ce qu'on fait, on amène les gens directement avec un guide sur le territoire, avec un petit véhicule, un 4 roues. On l'installe dans le bateau, ils peuvent prendre soit le service de guide, ou s'ils sont autonomes un petit peu, à ce moment-là, ils peuvent utiliser leur bateau tout seul, et le guide est sur le lac et s'occupe d'eux autres.
Vous parliez, Nicolas, d'un service hôtelier. De mémoire, et ça fait longtemps, les chalets étaient en construction, mais bien que les corridors étaient assez larges pour une personne en fauteuil roulant, il me semble que pour les chambres, c'était quand même un peu exigu.
Exact. Alors, au niveau des chambres, dans l'ancien bâtiment de 1893, on n'a pas de chambres qui sont adaptées, en fait.
D'accord.
Par contre, on a fait évaluer avec l'organisme qui roule et la Fédération des pourvoyeurs, on a deux chambres complètes qui sont faites pour des personnes à mobilité réduite. Donc, ça passe très, très bien en fauteuil au niveau de l'hébergement Le Faunique, qui est à peu près 20 mètres de l'auberge principale et du restaurant. Et les salles de bain complètes avec les toilettes, lavabo, douche adaptée, la chambre plus large également. Donc, on a beaucoup de clients qui viennent à ce moment-là profiter de nos services grâce à ces deux unités-là.
Est-ce que au niveau extérieur, bon, vous parliez de lacs, on le sait, dans le bois, les sentiers sont pas toujours amicaux aux fauteuils roulants. Est-ce qu'il y a vraiment des sentiers, appelons ça, qui sont damés, un peu comme une piste de ski?
Non, au niveau des sentiers pour les fauteuils, je vous dirais que les gens vont souvent faire des activités plus nautiques, donc ça peut paraître un petit peu bizarre, mais on a des canots qui sont attachés ensemble, un genre de catamaran, où est-ce qu'on est capable d'embarquer le fauteuil ou la personne à bord du bateau qui partent avec soit leur famille, soit avec un guide. Et à ce moment-là, ils peuvent faire beaucoup d'activités. Par la suite, pour se rendre, on a un repas du midi qu'on appelle le shore lunch sur le bord du lac Charité. Et là, on a un service de guide avec les véhicules pour amener les gens au repas du midi. Et on peut les amener de cette façon-là à d'autres endroits sur les lacs pour pratiquer la pêche.
Ouais, c'est vrai qu'il y a du VTT.
Oui, tout à fait. Il y a des VTT sur le site.
Donc, on peut également se faire véhiculer pour aller du point A au point B si nécessaire. Le autre obstacle qui me venait en tête, le train. Lorsqu'on arrive, le train nous débarque à peu près au milieu de nulle part, ce qui fait qu'il y a comme 3-4 marches. Comment vous vous y prenez?
Exact. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait, depuis que vous êtes venu, on a refait le petit système de descente. Donc, on a soit 3-4 petites marches pour descendre jusqu'au bateau, ou encore une rampe, c'est damé, là. C'est quelque chose qui descend progressivement, qui se fait bien en fauteuil. Et encore, on est aussi capable, dépendant de la limitation de la personne, d'aller le chercher directement avec un véhicule à la gare directement, donc en pick-up, et après ça, on l'installe dans le ponton pour le traverser jusqu'au triton.
Donc, ce que je comprends, c'est qu'il est avantageux de préciser notre réalité lorsqu'on réserve.
C'est très important, très, très important, parce que nous autres, notre souci, c'est que le client, peu importe son état physique, puisse passer un séjour inoubliable au triton. Donc, quand on le sait d'avance, on est capable de se préparer, et on peut porter quelques petites attentions supplémentaires, en fait, pour que les personnes puissent passer un séjour vraiment sans défaut et puissent profiter au maximum du territoire.
La Seigneurie du Triton, je le répète, à 45 minutes au nord-est de la Tuque, donc en Haute-Mauricie. On ferme cette fin de semaine pour l'Action de grâce. On recommence les activités en avril, donc commencez à y penser si vous voulez réserver. En conversation avec Nicolas Bernard, est-ce que, Nicolas, cette idée de rendre la pourvoirie la plus accessible possible est venue de, je sais pas moi, d'amis dans la famille. C'est rare que les gens, comme ça, prennent la décision de prévenir les coûts puis de dire « OK, on va faire en sorte qu'un public plus large vienne nous visiter ».
Je te dirais, Luc, que c'est venu de clients, tout simplement,
okay.
qui nous appellent au téléphone, disent « Regarde, je suis à mobilité réduite, mon rêve, c'est de venir pêcher, et tu penses que c'est possible ?» Effectivement, c'est possible. Puis, bon, ça l'était peut-être pas possible il y a plusieurs années, mais au fur et à mesure que les gens viennent, on s'adapte, on améliore, on crée des idées. Faut pas rester limité quand on est à mobilité réduite. Je pense qu'il faut en profiter. Puis c'est sûr qu'il faut que les hôteliers participent. On a notre plombier responsable de la plomberie à La Tuque, qui est un monsieur qui est en fauteuil depuis très longtemps, puis qui a su nous guider vraiment au niveau des salles de bain pour que ça soit adéquat. Il est client chez nous également.
Oui, excellent. Bon, on a parlé de la pêche. Il y a des clients qui préfèrent le volet villégiature. Par contre, on a dit que les promenades en bois ou en forêt sont peut-être pas nécessairement les plus faciles. Est-ce qu'il y a du plaisir pour quelqu'un qui voudrait uniquement profiter du volet villégiature s'il peut pas tout à fait aller en forêt?
Alors, au niveau villégiature, si c'est des personnes qui sont en fauteuil, je dirais que on a vraiment un accès plus sur le côté lacustre. Donc, des randonnées en canot, de la promenade en canot, de l'observation des castors, de l'observation des eaux, tout ça, ça peut se faire à partir du lac. Les lacs sont entourés de forêts. Donc, on va voir la même chose que si on se promenait dans un sentier. Par contre, on va le faire avec nos bras, en poussant avec des rames. Et pour se rendre au repas du midi ou à d'autres lacs, à ce moment-là, on va avoir un guide qui va traverser les gens avec un 4 roues.
OK. Qu'est-ce qui reste à faire si on voulait maximiser l'expérience pour tout le monde? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous envisagez qui, dans l'avenir, justement, seront réalité ou...
Écoute, il y a toujours évolution. C'est avec ça qu'on... Moi, je te dirais que c'est avec les clients qui viennent sur place qu'on grandit puis qu'on s'améliore. Donc, au fur et à mesure qu'on nous appelle pour nous dire « voilà la situation », on a déjà reçu un groupe d'une trentaine de personnes qui venaient d'Europe, qui étaient tous... qui avaient de la difficulté au niveau de la vision. Donc, à ce moment-là, on a reçu ces gens, puis on a adapté, on a mis plus de guides que prévu sur le groupe. On a changé notre façon de faire de l'interprétation de la nature aussi, c'est complètement différent. Et puis, on a réussi à le faire, puis les gens sont sortis de là, ils étaient ravis.
Ouais.
Donc, on s'adapte. Je dirais que oui, on peut grandir encore, mais... C'est des défis. Alors, on attend les appels des gens avec des nouveaux défis, puis on va essayer de répondre à tout le monde.
Et en terminant, ceux qui n'ont pas nécessairement envie de vivre la promiscuité de l'hôtellerie, il y a des chalets. Sont-ils accessibles aux gens en fauteuil ou, disons, que ça, c'est peut-être moins indiqué pour eux?
Alors, j'ai un chalet qui est accessible pour les gens en fauteuil. C'est le seul chalet, en fait, le chalet Roosevelt, où est-ce que les gens peuvent se rendre directement en voiture sur le site. Et ça se fait très, très bien. Donc, ils arrivent avec le véhicule à côté du chalet. Par la suite, ils peuvent monter sur le territoire parce que le bateau est directement stationné en avant du chalet. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit tout seul à mobilité réduite. Ça va lui prendre de l'aide avec lui au niveau du chalet.
OK. Ben bonne fermeture, bonne dernière fin de semaine. Ensuite, quoi, c'est un petit congé pour vous? Sinon, peut-être quelques salons là pour faire la promotion?
En fait, beaucoup de travaux de rénovation, de peinture, d'amélioration.
Ça n'arrête jamais.
Non, faut pas que ça arrête. Faut pas que ça arrête, c'est ça qui est le fun.
OK. Bien, pensez à votre couple quand même, là. C'est important, ça. Parce que si on... Il y en a qui diront à pas se voir, ça garde les couples en santé, mais il y en a d'autres qui disent le contraire.
Mais on a la chance de travailler ensemble, mon épouse et moi, et les trois enfants sont avec nous tout l'été.
Trois enfants?
Eh oui, ça grandit vite, hein?
Mon Dieu, il n'y en avait même pas quand je suis passé. Merci beaucoup, Nicolas Bernard.
Merci, Luc. Bonne journée.
Toutes les informations sur la pourvoirie, la Seigneurie du Triton seront sur la page de Ça vaut le détour, autant les numéros de téléphone. D'ailleurs, si vous voulez réserver après l'action de grâce, vous allez remarquer là, que c'est dans le 88 que vous allez le faire. Sinon, ben, il y a encore un sans frais qui est disponible. Et comme Nicolas le précisait, là, au retour de la belle saison, particulièrement si vous êtes des amants de la pêche ou si vous aimez entendre les oiseaux chanter, ça chante énormément au printemps et il n'y a pas encore de petits insectes fatigants. Donc, si jamais ça vous tente, ben, pour y être allé, c'est fort agréable. C'est pas donné, mais c'est fort agréable, ça c'est sûr. Un peu de musique, celle de mes aïeux, qui nous amène à une conversation avec Nadine, on va parler du volet jeunesse pour les enfants, donc ayant des parents atteints de la sclérose en plaques. Et Nadine, ben, on la joint au téléphone.
Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent par les routes de l'air. Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie dans leur vol angulaire. Tout unis à la chaîne derrière loi capitaine qui connaît le chemin. Le nid originel, la toundra les appelle et guide leur instinct.
Salutations, Nadine Prévost.
Oui, bonjour.
Nadine, qui est directrice des services et de l'action sociale pour la Société de la sclérose en plaques, division du Québec. Ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est de discuter de ce volet jeunesse pour les enfants ayant des parents atteints de la sclérose en plaques. C'est drôle à dire, mais ce volet-là, donc, veut aider les jeunes ou les parents?
Les deux. C'est une excellente question parce que la sclérose en plaques, ça touche vraiment toute la famille. Ça a un impact sur tous les membres de la famille. C'est une maladie hautement imprévisible, donc ça demande à tous les membres de la famille de s'adapter à cette imprévisibilité-là. C'est aussi très variable. Donc, il y a des journées bonnes et il y a des moins bonnes journées également.
Ça se situe en termes de journée ou de semaine, mois, parce qu'on parle de rémission, on parle également de ce qu'on dit attaque, je sais pas, là.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont la sclérose en plaques qui vont faire des poussées.
Des poussées,
c'est lorsque des symptômes qui surviennent ou d'autres, des symptômes qui étaient déjà présents qui s'aggravent pour au moins 48 heures, mais la durée moyenne d'une poussée est de quelques semaines. Donc, effectivement, ça demande à la famille de s'adapter lorsqu'une personne est en poussée. Ça demande à la personne qui la vit aussi de ralentir le rythme.
Quel genre d'activité serait empêchée lorsqu'on vit une poussée comme parent?
Parfois, il y a des poussées qui sont moins fortes que d'autres, mais parfois, il y a beaucoup de fatigue avec la sclérose en plaques. Et comme je vous disais, on ne sait pas, là, les poussées sont différentes d'une à l'autre. Donc, si moi j'ai une poussée, habituellement je marche, mais là j'ai une poussée c'est de la faiblesse dans les jambes, c'est sûr que je vais devoir m'adapter. Mm-hmm. Je vais devoir soit utiliser une aide technique, un fauteuil roulant, une canne, jusqu'à temps que la rémission s'amorce. Je peux être très fatiguée, avoir plus de difficultés à me concentrer, avoir des douleurs. C'est vraiment très variable. La sclérose en plaques a 1000 visages.
Et le volet jeunesse vise à donner du répit aux parents ou vise à faire aux enfants peut-être des activités que les parents ne peuvent pas faire avec eux? Et là, vous allez probablement me dire les deux.
Encore une fois, les deux! Mais c'est sûr que notre volet jeunesse vise plus particulièrement l'éducation. On veut que les jeunes comprennent ce qu'est la sclérose en plaques. On veut aussi les rassurer. Mm-hmm. Parce que l'état principal, là, lorsqu'on a un parent qui a la sclérose en plaques, bon, la peur que son parent décède, on peut les rassurer là-dessus. La sclérose en plaques, c'est une maladie qui est rarement mortelle. Ouais. Ils ont peur aussi d'avoir la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, c'est pas héréditaire. Il y a une prédisposition génétique, mais on peut quand même rassurer les jeunes que le risque, les chances sont vraiment grandes qu'ils ne l'aient pas eux-mêmes.
Bougez un tout petit peu, Nadine, ça va nous aider à vous entendre. Continuez.
Et il y a aussi peur que de voir ton parent en fauteuil roulant, mais il y a des jeunes qui s'habituent à voir leur parent en fauteuil roulant et qui le voient comme un outil qui leur permet d'avoir une vie, un outil qui leur permet d'avoir une vie plus active. Donc, il faut aussi éduquer les jeunes à ce niveau-là et à bien communiquer.
Comment éduquer les jeunes à ne pas avoir peur de l'avenir?
Ben, je pense que c'est en leur donnant de l'information adaptée à leur âge, adaptée aussi à la personnalité, parce qu'il y a des jeunes qui aiment savoir tout, avoir tous les détails. Il y en a d'autres qui préfèrent, selon leur personnalité, qui vont avoir besoin d'un peu moins d'informations, qui vont avoir plus besoin, au contraire, d'être rassurés. Donc, nous, on les prend un à un, on apprend à les connaître, on essaie de les soutenir selon leurs besoins. Et aussi, comme vous le disiez, les camps que l'on offre, les camps, ça leur permet aussi de rencontrer d'autres jeunes qui vivent une situation semblable à la leur.
C'est pour qui? J'entends par là que dans la même famille, il peut y avoir des profils d'enfants bien différents au niveau émotionnel. Il y a peut-être des enfants qui ne cadrent pas dans ce type d'activité-là et d'autres qui en ont besoin.
Oui. Il y en a aussi qui sont réfractaires, hein, et ils ont une peur de venir d'utiliser nos services. Ils ont peur de l'information qu'on va leur donner.
C'est ça, on veut pas le savoir des fois.
Parfois, oui. Ouais. Donc, il faut y aller doucement là avec ces jeunes-là aussi, évidemment. Le congrès pour famille qui va avoir lieu du 24 au 26 octobre à Sherbrooke, c'est une occasion de venir avec les parents. À participer à cet événement-là. Donc, c'est peut-être un petit peu moins épeurant comme premier pas. C'est sûr qu'après ça, les jeunes ont leur propre programme, mais au moins, ils sont sur place avec leurs parents. Ils arrivent avec leurs parents.
Vous avez un magazine avec un titre extraordinaire, Les Nerfs.
Oui.
Le magazine est pour qui?
Les Nerfs, c'est pour les moins de 18 ans. Il y a aussi des jeunes adultes qui le reçoivent. C'est vraiment pour les jeunes dont un proche a la sclérose en plaques. Principalement, ce sont des jeunes dont un parent a la sclérose en plaques, mais il y en a que ça peut être une grand-mère ou une tante de qui ils sont proches.
Mais Nadine, il me semble que c'est pas cool de lire un magazine qui traite de sclérose en plaques. Tu sais, qui est toujours centré autour de la maladie de mes parents.
C'est pour ça qu'on essaie de faire ça de façon ludique. Même dans nos programmes aussi au camp, quand on parle de sclérose en plaques, on va faire des activités de simulation de symptômes, des courses à obstacles en fauteuil roulant. Donc, on va toujours y aller de façon ludique. Dans les nerfs et sur le site Internet La Colonie, c'est la même chose. On y va de façon... Il y a des jeux pour apprendre les mots. Il y a des témoignages. Ils peuvent lire des témoignages de jeunes qui vivent une situation semblable à la leur. Donc, c'est pas des gros articles lourd. On essaie vraiment de couvrir large, de parler des émotions, de la communication, de les outiller finalement sans nécessairement mettre le gros emphase sur la maladie comme telle.
Le jeune va réagir souvent selon le sentiment du parent. Je veux dire, c'est beau de donner des ateliers aux jeunes, des conférences, de leur parler, mais souvent, sa perception va être influencée par comment la maladie est acceptée par les adultes au sein du noyau familial. Est-ce que vous travaillez également avec les adultes?
Oui, comme par exemple au congrès Espoir Famille, comme je vous le dis, c'est une expérience qui est vécue en famille. Donc, on va à la fois donner de l'information aux parents, leur permettre de s'exprimer, et on fait la même chose avec les enfants. Donc, ça ouvre les voies de la communication, si vous voulez. Ils se retrouvent à la fin du week-end et tout au long du week-end, à certains moments, là, et ça dédramatise. Tout le monde rencontre d'autres familles. Il y a des échanges, il y a du plaisir aussi. On a une belle soirée le samedi soir. Donc, c'est un moment vécu en famille qui permet de souvent d'éviter des crises dans les familles. Et oui, c'est vrai que la réaction du parent influence la réaction de l'enfant.
Oui.
Je vous dirais que plus les parents sont ouverts à en parler avec l'enfant, on voit que souvent c'est mieux parce que parfois aussi les parents essaient de protéger les enfants, mais les enfants sentent qu'il y a quelque chose. Et souvent, ce que les enfants vont s'imaginer, c'est pire que la réalité. Donc, les enfants ont besoin d'être rassurés, ont besoin d'être informés et de faire partie de la démarche de la famille.
Ouais. Est-ce qu'il y a une période de déni lorsque le diagnostic tombe, en général?
C'est différent d'une personne à l'autre. Les réactions, ça varie de la colère au déni, à la tristesse. Le déni, oui, pourquoi moi? Mon médecin doit s'être trompé, c'est pas ça, je me sens bien. Oui, le déni, c'est quelque chose qu'on voit et qui est une étape qui permet de s'adapter, qui permet d'aller plus loin. Faut pas le voir de façon négative, là.
Mais est-ce que le parent devrait attendre d'avoir traversé ces zones de turbulence avant d'en parler à ses enfants ou encore avant de suggérer aux enfants eux-mêmes de profiter d'activités? Parce qu'il va être peut-être plus à l'aise pour l'aider dans ses questionnements ou...
C'est une très bonne question. Il n'y a pas une situation... Il n'y a pas deux situations pareilles, là. Mais c'est sûr, comme je vous disais, plutôt, l'enfant le sent qu'il y a quelque chose. Là. Il sent que le parent a de la peine pour une raison X. Et parfois aussi, les symptômes sont visibles. Donc, on doit les expliquer. Et quand on ment par omission... L'enfant le sent aussi qu'il n'a pas toute l'information. Donc, des fois, les parents doivent à la fois s'adapter rapidement au diagnostic et se dépêcher de s'outiller pour aider aussi leurs enfants. C'est là où ça peut être utile d'aller chercher des ressources comme à la Société canadienne de sclérose en plaques. On a des brochures, on peut parler aux parents, on peut parler aux enfants.
Juste donc, en terminant, parce que j'ai plus de temps, mais il est encore temps de s'inscrire ou c'est plein?
Au congrès, il faut se hâter, hein, parce que c'est quand même du 24 au 26 octobre.
Ouais.
Donc, peut-être dans les prochains jours, on va pouvoir encore accepter des personnes, mais peut-être pas la veille du congrès.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Nadine Prévost, merci beaucoup. Bon congrès. Sujet délicat. Ça vaut le détour et nous y reviendrons demain sous un autre angle du côté d'Accès libre. Demain, c'est peut-être l'aspect légal de la chose. Oui, aujourd'hui, on va un petit peu parler de la légalité du suicide assisté, mais également de l'aspect émotionnel chargé entourant cette demande de certains et ce grand inconfort de d'autres. Et ce qui nous mène à cette discussion avec Jacques Théberge, que je salue, c'est évidemment ce qui a fait la manchette cette semaine, à savoir le décès choisi le 16 septembre dernier, au bout de 61 jours, sans avaler une bouchée. Il avait la peau sur les os. On parle de Pierre Mayence et... ça s'est terminé devant le juge. M. Mayence a demandé d'avoir le droit de, si on veut, refuser le traitement, à savoir de ne pas manger parce que c'était sa seule solution pour mettre fin à ses jours. Le centre où il était hébergé était inconfortable avec cela. Et monsieur y croyait parce qu'il a choisi de... ne pas se nourrir jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et j'avais envie de poser la question à Jacques Théberge parce que je sais que Jacques a déjà témoigné un peu contre cette idée que l'État pourrait permettre le suicide assisté. Bonjour Jacques.
Bonjour Luc. Luc.
Merci d'être là, d'autant plus que, bon, la ministre Yvon a dit cette semaine il serait important maintenant qu'on a accepté le principe de mourir dans la dignité, de poursuivre la réflexion, le débat. Si je sens une certaine cohésion sociétale autour de mourir dans la dignité, je ne pense pas entendre la même majorité du côté du suicide assisté, et vous faites partie de ceux qui, justement, seraient mal à l'aise avec cette idée-là.
Oui, effectivement. Mais en fait, selon moi, je pense que on fait erreur comme société d'accentuer notre focus sur la question du suicide assisté parce qu'on détourne entièrement du vrai débat, selon moi, qui doit être fait, qui est celui d'avoir la possibilité de vivre dans la dignité.
Et pour vous, qu'est-ce que vivre dans la dignité?
Ben, écoutez, on s'entend que pour une situation, on peut pas rentrer trop dans les détails de la situation de M. Mayence, mais moi, je m'interroge et je me questionne beaucoup sur la situation, autant dans les CHSLD que dans les domiciles, dans les résidences quotidiennement pour les gens qui reçoivent des soins de maintien à domicile, sur l'encadrement, les services qui leur sont offerts et la façon aussi dont les services sont donnés. Il faut comprendre que, et ça c'est pour tout le monde, perdre son autonomie parce qu'on la perd pas nécessairement à la suite d'un handicap, mais ça peut être simplement pour des causes de vieillissement. Perdre son autonomie, c'est quelque chose de grave. Être dépendant physiquement des autres pour accomplir des tâches quotidiennes et des choses qui sont acquises pour le commun des mortels, il y a un deuil à faire par rapport à ça et je pense que, d'une part, les gens ne sont pas nécessairement encadrés psychologiquement pour les soutenir dans ces situations difficiles au quotidien, mais je pense aussi qu'il y a un flagrant manque de services. On parle autant dans les CHSLD que dans le maintien à domicile, et c'est ce qui peut, je dis bien, qui peut peut-être amener des personnes plus vulnérables à faire un choix de quitter ce monde.
Ouais, mais je ne sais pas jusqu'où le débat ira, si jamais on le poursuit, mais je pense que la première... Le premier arrêt dans la réflexion sera autour de la personne qui a de grandes souffrances. Il y a peut-être eu, j'ai l'impression, une erreur de focalisation dans un des articles que j'ai lu. Je pense que c'est dans la presse où on disait l'homme voulait cesser de dépendre de ses amis et du personnel médical pour accomplir chaque petit geste de la vie et voyait sa capacité à quitter sa chambre extrêmement limitée. On dirait que ce que ça dit là, c'est il acceptait pas ses limites, alors que quand tu continues et quand tu lis ailleurs, tu te rends compte que à cause de ses plaies de lit, le gars n'arrivait plus à se placer dans une position où il ne souffrait pas et on semblait ne pas trouver de solution pour guérir ses plaies de lit. Et le suicide assisté, je pense, serait, disons, accordé, entre guillemets, à ces gens qui souffrent et qui ne voient pas d'issue, même si ce n'est pas nécessairement mortel.
Je pense que s'ils ne voient pas d'issue, la première démarche, je reviens au fait que oui, je suis un ardent défenseur des gens qui s'opposent au suicide assisté ou à toute forme de fin de vie, là, mais je reviens encore sur le fait que comme pour le cas de M. Mayence, effectivement, il y a des contradictions dans l'article qui est paru dans la presse, mais je remarquais, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir dans le Journal de Montréal, on parle aussi abondamment aujourd'hui du fait que le décès volontaire, bon, on en est rendu à un troisième personne qui est dans une situation qui était similaire à celle de M. Mayence, qui a choisi de mettre fin à ses jours depuis le mois d'avril de cette année-là.
Bien
Alors,
que...
on a, je pense, en ayant accepté peut-être le principe de mourir dans la dignité et du suicide assisté, je crains qu'on ait peut-être aussi baissé les bras, ouais. Et on a peut-être une certaine forme de résignance vis-à-vis le fait que c'est comme ça, on n'est plus en mesure comme société d'aider ces gens-là. Alors la solution, on l'a, on la possède, elle a été votée, elle va entrer en vigueur, quoi, je pense, en décembre de cette année. Qui est notre fameuse loi concernant les soins de fin de vie.
Mm-hmm. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, si on fait abstraction de l'aspect émotionnel et on prend juste les cas et non les individus, c'est que l'un a choisi de mettre fin à ses jours parce qu'il ne voulait pas déménager et aller dans une pièce beaucoup plus petite, perdre sa cuisine, alors que l'autre, ça semble être autour de souffrances physiques. J'ai l'impression que
la souffrance physique est tout aussi importante que la souffrance psychologique. Hein?
Et c'est pour ça que je me dis, j'ai l'impression que là, on a deux cas, chaque côté de la ligne, à savoir, si on faisait un vox pop dans la rue, je pense que les gens diraient oui aux souffrances physiques, la personne n'a pas à subir ça jusqu'à la fin de ses jours, versus une souffrance émotionnelle où là, peut-être, on s'adapte toujours, finalement, bien que ce soit extrêmement difficile au début. Je ne sais pas comment ça se fait, mais l'être humain trouve dans le fond des réserves pour continuer sa route.
Oui, je suis d'accord avec vous, d'autant plus que... Mais ces réserves-là, je dirais que, oui, elles sont intrinsèques. C'est des réserves que l'on se découvre parfois, mais... faut comprendre, il faut savoir que pour d'autres personnes, la lumière au bout du tunnel, elle peut être apportée par du soutien, que ce soit du soutien des proches, mais que ce soit aussi du soutien du personnel.
Oui.
Du personnel médical. Puis le niveau de souffrance, moi, on va bien le comprendre dans notre société, mais encore une fois, la souffrance physique et psychologique, ce sont deux souffrances très différentes, et c'est deux types de souffrances pour qui chaque personne a un niveau de tolérance qui est très, très, très différent. Moi, je me suis trouvé récemment, c'est un peu, c'est par hasard, mais il y a quelques mois, avec justement des problèmes au niveau d'une plaie, beaucoup moins grave, évidemment, que la situation dont on parle aujourd'hui. Mm-hmm. Et puis, j'ai été amené, justement, à être encore plus dépendant que je peux l'être quotidiennement aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est difficile, et c'est vrai que ça demande... un soutien. Et moi, je m'interroge toujours quand on arrive avec un article comme celui d'aujourd'hui où on parle des plaies de monsieur ou d'une autre personne qui avait des problèmes sur le fait de se retrouver dans une petite pièce. Mm-hmm. Moi, ce que je me demande surtout, c'est comment on en est arrivé là.
Ouais.
Et il faut se questionner et rapidement sur... comment on est arrivé à des situations comme ça, comment on peut se retrouver aujourd'hui, parce que c'est pas peu dire que de faire le choix de jeûner et de se voir diminuer pendant,
ouais,
quoi, 61 jours,
ouais, ouais, parler, c'est...
il faut le faire, il faut vraiment
c'est très
être
lucide,
déterminé à mourir.
Ouais, ouais. Et on peut présumer que la plaie de lit, lorsqu'on sait que la personne est tétraplégique, peut subvenir, et donc il devrait être commun dans la façon d'assister la personne de garder un œil ouvert là-dessus. Là.
Ben exactement. Puis on s'entend qu'une plaie n'apparaît pas là en l'espace de 2 ou 3 heures.
Mm-hmm.
Il y a un développement qui se fait. Il y a sûrement, malheureusement, il y a sûrement eu un manque quelque part. Et le point principal, c'est que je pense qu'il ne faut pas s'attarder à chercher uniquement des coupables de cette situation-là,
ouais,
mais travailler sur, comme je le disais un petit peu plus tôt dans l'entrevue, travailler davantage au développement de ressources,
ouais,
et à s'assurer que des situations comme ça ne se produisent plus, parce que c'est un non-sens. Là, on est en 2014, on est capable d'aller sur la Lune, on est...
Mm-hmm.
Se dit-on évoluer aujourd'hui, puis on voit des gens qui choisissent de se laisser mourir pour des questions de perte d'autonomie. Là.
Ouais. Jacques Théberge, en terminant, comment pensez-vous qu'une société peut-elle décider, parce que bon, souvent, l'Assemblée nationale va se fier aux sondages et aux commentaires qu'ils reçoivent. Comment une société peut-elle décider alors que chacun a une expérience très différente? Je veux dire, vous avez été, si je ne m'abuse, abandonné en bas âge par vos parents qui refusaient de prendre soin d'un enfant qui était fonctionnel du pied gauche seulement, bien que la tête et la bouche vont très, très, très bien, mais on ne le savait pas quand on a pris cette décision-là. Et là, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous êtes conférencier, vos choses roulent sans mauvais jeu de mots. Et donc, vous vous dites probablement, ben non, il faut continuer, puis il ne faut pas accepter ça. Il y a peut-être d'autres gens qui ont une réalité très différente, puis qui disent, moi, je veux avoir le droit de décider, je suis majeur et vacciné. Donc, chacun va témoigner selon son expérience et sommes-nous habilités à choisir ce que la société devrait décider?
Je pense qu'il faut... Je pense sincèrement qu'il faut accorder, même si je suis contre. Je pense que ça demeure que c'est un droit pour pardon, qu'on ait un handicap ou non, qu'on soit limité ou non, on a quand même un certain droit personnel de choix sur notre vie ou notre mort. Mais ce sur quoi il faut faire attention comme société, c'est de ne pas détourner du regard et ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et dire, ben maintenant qu'on a un moyen pour soulager la souffrance de ces gens-là, qu'on laisse de côté en fait tout ce qui peut être fait pour soulager le quotidien.
Ouais.
Parce qu'il y a plein de gens qui vont faire un choix de fin de vie, Luc, j'en suis convaincu, qui vont le faire par découragement et ouais, par le fait qu'ils ne voient pas ou qu'ils n'ont pas des ressources pour leur permettre de vivre dignement et ou de vivre avec des douleurs moins grandes.
Mais on va s'entendre que il y a tellement de sollicitations sur le système qu'évidemment il va y en avoir de ces gens-là qui vont malheureusement passer entre les mailles du filet. Parce que là, bon, nous, on s'intéresse à ceux qui ont des handicaps et qui ont fait la manchette, mais il y a plein de gens qui, malheureusement, en ont ras-le-bol de leur souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, et le système n'est pas toujours habilité à sauver tout le monde.
Effectivement, sauf que pour eux, on a toujours, on n'a jamais créé de loi qui autorise ou qui permet le suicide, ou
ouais,
qui assiste le suicide des gens, par exemple, qui n'ont pas de souffrance physique.
Mm-hmm.
Y a pas de loi qui dit que lorsqu'on est dépressif, on peut demander un soutien au suicide.
Ouais. Merci beaucoup, Jacques Théberge.
Ça m'a fait plaisir, Luc.
Bonne continuité. Nous, on va se tourner vers un nouveau service qu'offre Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On va parler à André Vincent, qui est chef des services adaptés de BANQ, tout de suite après Best Friend de Jason Mraz.
Best friend. I know without you by my side that I would be different. Yes, I feel my life is better, and so is the world we're living in. I'm thankful for the time I spent with my best friend. Best friend.
C'est vrai que ça s'écoute bien. Un extrait du plus récent de Jason Mraz, lui qui était à Montréal il y a à peine quelques heures. Vous dire que dans un peu plus d'une heure, soit à 14 heures ou encore en balado-diffusion, C'est bon pour la santé va discuter de sexualité assistée, de chambre d'intimité, tout ça en marge de Prends-moi, ce court-métrage présenté au Festival du Nouveau Cinéma, avec tout de suite après une discussion demain vendredi le 10 octobre à 17h du côté du 1564 Saint-Denis. Donc Marianne sera là pour en discuter dans un petit peu plus d'une heure pour ceux qui nous écoutaient en direct. André Vincent, directeur des services adaptés à BANQ, est avec nous pour parler de ce nouveau service d'accompagnement des usagers à mobilité réduite à BANQ, des bénévoles qui vont guider les usagers à l'intérieur de la grande bibliothèque et les assister dans la lecture ou même la manipulation des documents et leur utilisation. Un service qui, André, j'avais l'impression, existait déjà. D'où provient cette impression?
Ben, bonjour Luc, tout d'abord. L'impression est justifiée parce qu'il s'agit moins d'un nouveau service que d'un service auquel on a décidé de donner plus d'ampleur, plus d'importance et de le faire connaître davantage auprès des usagers. Donc, on a plus de bénévoles que par le passé et on a vraiment décidé aussi d'étendre l'offre de service à pas uniquement les personnes qui se considèrent comme handicapées, mais aux personnes qui sentent qu'elles n'ont peut-être pas l'autonomie suffisante pour profiter au maximum des services que peut lui offrir la Grande Bibliothèque ou encore l'édifice BANQ Vieux-Montréal où se trouve le centre d'archives. Donc, on a vraiment voulu donner une nouvelle dimension à ce service-là afin que personne ne se prive du plaisir, parce que je pense qu'on doit le dire comme ça, de venir fréquenter la Grande Bibliothèque parce qu'il se dit, ben moi, si je me rends là, une fois arrivé là, si je suis seul, je pourrais pas là, me retrouver, ça va être difficile. Et ça s'adresse donc à toutes ces personnes-là.
Quelles sont les limites d'un service comme celui-là? Qu'est-ce que je ne peux pas recevoir comme aide?
Je dirais qu'il y a peu de limites, si ce n'est que, évidemment, les bénévoles accompagnateurs qui nous viennent des amis de BANQ seront pas là, par exemple, pour aider quelqu'un à compléter des informations personnelles. Hein. S'ils les assistent, par exemple, pour naviguer sur un site Internet, ça ne sera pas un site où le traitement d'informations, de données personnelles va être en cause. C'est vraiment d'aider la personne à utiliser des ressources associées à des services de bibliothèque. Et je donne là quelques exemples. Ça peut aller tout simplement dire je viens à la bibliothèque pour la première fois, je suis une personne non ou malvoyante, puis j'aimerais faire le tour, voir ce qu'il y a à tous les étages. Donc, un bénévole, l'accompagnateur, peut faire une telle visite et montrer ce qu'il y a, les collections musique et film au quatrième étage, où sont les livres sonores non adaptés, où se trouvent les collections adaptées au rez-de-chaussée de la Grande Bibliothèque. Ça peut être quelqu'un qui va aider une personne à lire des microfilms à la Collection nationale ou à fouiller dans les archives à BANQ Vieux-Montréal. Ça peut être simplement pour bouquiner, quelqu'un veut venir simplement consulter ses compositeurs favoris à musique et film toujours, puis repartir avec un CD. Donc, les bénévoles sont là pour aider.
Mais si je comprends que le bénévole n'est pas là pour modifier mon statut Facebook, peut-il quand même m'aider dans un travail de session à fureter sur le web et
oui.
peut-être à m'envoyer des articles en Word qui sont beaucoup plus faciles à manipuler pour une personne qui peut-être n'est à l'aise qu'avec Word?
Oui, bien sûr, dans la mesure où l'usager lui-même là, connaît les procédures adéquates pour y parvenir. Ce que je veux dire par là, faut comprendre que les bénévoles ne sont pas là pour remplacer ni les compétences professionnelles de nos bibliothécaires, ni les connaissances qu'on assume que l'usager doit avoir.
Ouais, ouais.
Si quelqu'un vient faire une navigation sur un site web et il décide d'utiliser un logiciel de revue d'écran, Jaws ou d'autres logiciels, ça suppose que l'usager doit lui-même connaître Jaws. Mm-hmm. Le bénévole ne le connaîtra pas, bien sûr. Ce que le bénévole va faire, par contre, c'est aider l'usager dans des sites ou des bases de données qui seraient moins accessibles avec ces logiciels de revue d'écran-là.
André Vincent, qui est directeur du service adapté du côté de BANQ. On s'entretient avec André de ce service d'accompagnement des usagers à mobilité restreinte.
Petite précision, je suis plutôt chef des services adaptés, pour être bien exact.
Chef au lieu de directeur.
Voilà.
Au niveau du chèque, est-ce que ça change quelque chose de jeudi ou...
Ah, ça pourrait changer,
ah oui,
effectivement.
Hein? OK. Parce qu'il est question d'une formation que les bénévoles reçoivent, qu'est-ce qu'on leur apprend?
Nos bénévoles reçoivent tous une formation aux techniques d'accueil des usagers handicapés, toutes catégories confondues, visuel, moteur, troubles d'apprentissage, déficience intellectuelle. Donc, on leur apprend là, les bonnes pratiques à avoir, les techniques de guidage, s'ils vont accompagner quelqu'un, puisqu'il y a une bonne part d'accompagnement, même de déplacement, puisque quelqu'un pourrait venir ici simplement pour visiter une de nos belles expositions. Il y en a une sur Michel Tremblay actuellement et d'autres. Et pour une personne qui ne voit pas le faire seul, c'est pas toujours évident, puisque les formations n'est pas toujours disponible de façon adaptée. Donc, on a un accompagnateur qui peut aider à ces fins-là. Donc, les techniques d'accompagnement font partie de la formation. Le personnel va pouvoir aider, pas le personnel, mais les accompagnateurs vont pouvoir aider également à manipuler des équipements comme les photocopieurs, les numériseurs à la Collection nationale, ainsi de suite.
Les bénévoles recherchés doivent s'engager pour un certain nombre d'heures par mois. C'est donc qu'on a, dans notre estimation, une bonne idée des demandes qui vont nous parvenir. Là. Si on dit aux gens, si vous vous engagez, vous devez être là, c'est parce qu'on sent qu'il y a un besoin.
On est convaincu qu'il y a un besoin, mais juste une petite précision. Actuellement, donc, les bénévoles s'engagent, se rendent disponibles à certaines plages horaires, certains jours de la semaine, selon justement leur emploi du temps. Et pour le moment, dans une première étape, on demande aux usagers de réserver un temps de
D'accord.
bénévole. Donc, on leur demande, dans la mesure du possible, d'appeler 48 heures à l'avance. Ça peut être pour la semaine prochaine ou dans deux jours ou dans deux semaines. Mais vérifier quels sont les blocs disponibles. Et là, on va faire une réservation. L'usager se présente à la grande bibliothèque et... va pouvoir, le cas échéant, être accompagné par un bénévole. On est à bonifier cette offre de service présentement compte tenu de l'enthousiasme de nos bénévoles et on va probablement être en mesure très prochainement d'offrir la même chose, mais sur demande, sur place. Alors, un usager handicapé vient à la grande bibliothèque, qui pourrait être au comptoir d'accueil, dit « Moi, j'aimerais être accompagné pour telle chose. Pouvez-vous vérifier si un bénévole est disponible?
Mm-hmm. »
Évidemment, on ne peut pas à ce moment-ci offrir assurer la présence d'un bénévole à toutes les heures d'ouverture de la grande bibliothèque, mais ça va être une chose à vérifier sur place.
Et est-ce qu'il est possible, en réservant, d'espérer avoir un accompagnateur 7 jours?
Pour le moment, les disponibilités qui nous ont été données ont été sont surtout sur semaine, durant la journée. Mm-hmm. Mais certains de nos bénévoles nous ont dit, ben écoutez, s'il y a une demande particulière, qu'il soit le soir ou même le dimanche.
Je suis obligé de vous arrêter, malheureusement. C'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, André Vincent. Merci à Kamal, Lynn. Et on se retrouve demain pour Accès Libre.